Alors bonjour à toutes et à tous. Ça fait un grand vide appelé par les enfants. Hein. Voilà, nous sommes heureux ce matin, en tout cas, moi, d'avoir la possibilité de partager cette parole avec vous. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, et les versets 1 à 13. Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit : N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim ? Lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qui n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, ce matin, pour ce privilège, cette liberté que nous avons de partager ta parole. Nous te prions de nous aider, de m'aider à la communiquer correctement, Seigneur. Nous te prions de nous donner un cœur et des oreilles pour entendre, un cœur pour accepter cette parole, annoncée dans la faiblesse du langage, que tu puisses nous conduire ce matin, Saint-Esprit, afin que de ta part nous soyons à tous égards pleinement enrichis. Nous t'en remercions, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Il est bon de se rappeler, frères et sœurs, que la parole de Dieu constitue pour nous, en tant que chrétiens, notamment protestants, le seul fondement valable en matière de foi et de vie. C'est-à-dire que tout ce qu'elle contient est suffisant pour ce que nous sommes appelés à croire et à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons systématiquement rejeter ou accepter tout apport extérieur au cercle d'Église dans lequel nous appartenons. Dans la mesure, bien sûr, où ces derniers ne sont pas en contradiction avec les Écritures. Nous devons être, je crois, un peu comme les chrétiens de Béret, qui contrôlaient les enseignements de l'apôtre Paul. Je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Nous assistons aujourd'hui, par le biais d'Internet notamment, hein, qui a permis cette propagation un peu plus rapide et plus générale, nous assistons aujourd'hui à une augmentation de la séduction spirituelle, conduisant certains dans l'erreur et malheureusement dans l'égarement. On peut trouver sur Internet nombre de très bons enseignements chrétiens. Il y en a en fait pour tous les goûts et on peut même zapper à souhait. Le problème est que nombre de chrétiens n'ont pas le discernement nécessaire pour distinguer, à l'écoute des enseignements ou à la lecture de ces derniers, ce qui est bon et ou ce qui ne l'est pas. Comment le faire d'ailleurs au milieu de ce mélange parfois confus d'erreurs et de vérités? Le tout, bien évidemment, prétendument annoncé, donné au nom du Seigneur. Le discernement est donc important et nécessaire pour nous. Parce que notre manière, même si on n'en est pas conscient, de croire ou d'interpréter la parole de Dieu ou l'enseignement que nous avons reçu, vont influencer, déterminer notre comportement. Il n'y a qu'à regarder autour de nous et à considérer l'exemple de nos amis catholiques et musulmans. Il n'y a pas de jugement, hein. Je respecte les convictions et les croyances de chacun. Et cela doit nous permettre un peu de mieux comprendre, notamment dans le cadre de notre témoignage envers. Nous avons donc à notre disposition la Bible qui est la parole de Dieu, mais comment la comprendre, l'interpréter et l'appliquer de manière correcte, saine, équilibrée à notre vie. Il y a bien évidemment des outils pour cela, il y a des méditations, j'évoquais tout à l'heure Internet, de très bons enseignements, pasteurs, il y a énormément de moyens qui nous permettent, mais nous devons, nous-mêmes, nos chrétiens, eh bien, recourir à un certain nombre de choses, prendre le temps peut-être, hein, prendre le temps, disons souvent que nous n'avons pas de temps, mais nous devons prendre le temps, nous devons pour cela établir des priorités dans notre vie, dans un monde agité, surchargé, eh bien, de lire la parole de Dieu, de la méditer. Il y a une... Pour cela, pour étudier la parole de manière saine, correcte et équilibrée, eh bien, nous avons recours parfois, on parle de l'herméneutique, hein, c'est l'interprétation des Écritures, donc l'Église n'a rien inventé, hein. Et c'est une démarche scientifique qui nous permet eh bien, de comprendre au mieux, quel que soit le texte, que ce soit un texte biblique, un texte de l'extérieur, quel que soit le type, le genre littéraire du texte, de comprendre mieux ce qui est dit. Et de pouvoir, et bien évidemment, pour ce qui nous concerne en tant que chrétiens, l'appliquer à nos vies. Bien évidemment, nous avons besoin eh bien, des lumières et de l'aide du Saint-Esprit. Le texte ici nous apprend, pendant que Jésus et ses disciples traversaient un champ le jour du sabbat, ces derniers se mirent à cueillir quelques épis et à les manger. Matthieu nous en donne la raison, c'est tout simplement parce qu'ils avaient faim. Quoi de plus naturel? Quelques-uns, je pense, d'entre nous l'ont peut-être déjà fait. Ça me fait remonter à mon enfance, ça. Quand on passait d'un endroit à un autre, on grappillait, on n'avait peut-être pas le droit de le faire, mais je ne sais pas. Voilà, tout naturellement, on le faisait. Mais voilà, au verset 5, que se manifestèrent les pharisiens, toujours à l'affût, et qui dirent à Jésus, « Voici, des disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Alors ici, le simple geste des disciples, cueillir quelques épis et les manger, était compris comme du travail par ces hommes religieux. Pour eux, arracher les épis, c'était comme moissonner. Les frotter entre les mains, c'était comme battre le blé. Rejeter la balle qui restait, c'était comme du vanage. Le commandement, ici, pour eux, était au moins 3 fois transgressé. Pour leur répondre, le Seigneur n'est pas allé sur le terrain de l'interdit ou pas, mais il les renvoya à des faits qu'ils connaissaient. À l'histoire de David, et alors qu'il était en fuite devant le roi Saül et ses compagnons, il mangea des pains spécialement préparés comme offrande à Dieu, et qui ne devait être consommé que par les sacrificateurs après utilisation. Le besoin de David et de ses compagnons avait, semble-t-il, prévalu, emporté sur les exigences de la loi. Et personne ne les en avait blâmés. Le second exemple que Jésus cita était celui des sacrificateurs qui officiaient au temple pendant les jours de sabbat. Et pourtant, comme dit Jésus, ils ne s'étaient pas rendus coupables, car les sacrifices, comme vous le savez, des animaux et les offrandes devaient être offerts à Dieu chaque jour. La loi de Moïse interdisait donc que l'on travaille un jour de sabbat. Littéralement, le sabbat, c'est l'arrêt de toute activité, le repos. L'on ne devait faire aucun travail pendant ce 7e jour de la semaine, le samedi à l'origine, qui commémorait aussi le jour pendant lequel, après avoir créé le monde, Dieu cessa toute activité. Ce jour avait donc une grande importance parce qu'il rappelait aussi l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. C'était donc celui du repos et de la liberté qui s'étendait à tous, y compris aux serviteurs et à la servante, au bœuf et à l'âne. La terre elle-même, ainsi que la vigne, devait être laissée au repos tous les 7 ans. Dieu avait donné ce commandement à Israël, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il se reposait le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni ce jour de repos et l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part dans un jour particulier. Ne pas respecter ce jour, notamment dans l'Ancien Testament, c'était s'exposer à la mort. D'ailleurs, il y a un exemple d'un homme dans l'Ancien Testament, il l'a payé de sa vie en voulant malgré tout aller ramasser du bois pendant ce jour-là. Mais aujourd'hui, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous sommes entrés totalement dans le repos de Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pas seulement le dimanche, considéré par la société comme étant le dernier jour de la semaine, le jour du repos, mais c'est tous les jours que nous sommes dans le repos de Dieu. Il n'empêche que nous devons, en tout cas, frères et sœurs, malgré tout, faire bon usage de ce jour particulier. Il faut aussi que ce soit un temps de repos, peut-être un temps de rencontre ou de consécration au Seigneur. Certains, comme nous le savons, ça a été le cas au moins à une époque donnée, à cause de leur profession, doivent travailler ce jour-là. Alors le problème avec les hommes religieux de l'époque, notamment les pharisiens, c'est que dans leur zèle, ils allaient bien au-delà de ce que la loi de Moïse leur demandait. Car ils avaient ajouté une quantité de commandements supplémentaires. 613 commandements négatifs et positifs. Ils avaient 200 interdictions concernant le sabbat. Un commentateur a dit un jour, ce jour était un cadeau de Dieu fait à Israël. Et ces commandements supplémentaires devenaient une gêne absurde et inutile. Une agression contre l'homme et une offense à Dieu. Et là, je dis amen. Quoi de plus fatigant qu'au jour du sabbat. Tout devenait donc plus compliqué. Par exemple, pour ne citer que cela, le chemin de sabbat ne devait pas faire plus d'un kilomètre. Il devait y avoir un kilomètre entre le lieu d'habitation et la synagogue. On se posait, et ça c'est la cerise sur le gâteau, mais je ne suis pas dans la moquerie, je suis là, je fais simplement un constat, pour qu'on comprenne mieux peut-être ce à quoi le Christ a été confronté, on se posait la question de savoir s'il était possible de manger un œuf qui avait été pondu pendant le jour du sabbat. C'est prouvé. Le Talmud, le recueil de commentaires condamné le simple fait d'arracher et de moudre un volume de grain qui équivalait à celui d'une figue sèche. Sabbata 70b. J'ai la référence. Cela nous montre ici à quel point la question de l'observation du sabbat les préoccupait. Alors vous savez, c'est un peu comme le dada dans certaines églises, par rapport à l'élection, par rapport au baptême d'eau. C'est des choses évidentes. L'élection, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Le baptême d'eau, c'est une évidence. Sur la question du baptême du Saint-Esprit ou pas, les modalités, etc. Et ça fait partie de tous les enseignements de la parole de Dieu. Et pour certains, ça devient un dada. Ils ne voient que par ça. Alors que la parole de Dieu nous encourage, nous exhorte à accepter, à comprendre et à enseigner tout le conseil de Dieu. En tout cas, la question, comme on le peut le voir dans les évangiles, du sabbat était la cause principale du conflit qui les opposait au Christ. On le voit plus loin dans notre récit, alors que Jésus guérit l'homme à la main sèche. Ils posèrent alors là la question de savoir, est-il possible de faire une guérison le jour du sabbat? Comme à son habitude, le maître leur répondait par une autre question qui les mettait dans l'embarras. En substance, il leur disait, si vous portez secours à votre animal pendant ce jour, il n'y a aucune raison pour que je ne porte pas secours à un homme dans la détresse. L'homme, selon Jésus, c'est ça qu'il veut leur faire comprendre, a bien plus de valeur qu'un animal. Le Seigneur dénonçait une fois de plus ici leur hypocrisie. Alors j'aimerais vous dire par expérience, parce que j'ai bourlingué un petit peu partout, dans le monde militaire, on circule un peu partout, même au sein du monde militaire, dans d'autres pays, je peux vous dire que l'hypocrisie n'a pas de frontières. On la trouve partout. Parfois, c'est à en pleurer. Si donc le Christ persistait à guérir le jour du sabbat, de toute manière, il y avait urgence. C'était aussi pour s'élever contre ces traditions humaines et contre leur abus d'autorité. On le voit notamment dans Luc chapitre 13, verset 16, où il est question de la guérison d'une femme courbée. Et là, eh bien, comme dans le cas précédent, le chef de la synagogue viendra lui dire, lui essayer de dire, c'est pas possible. Il y a 6 jours pour travailler, et toi tu viens faire la guérison aujourd'hui, ça va. C'est carrément irréel. Ce qu'il remettait donc en question ici, ce n'était pas le sabbat ni la loi de Dieu, que Jésus avait toujours respecté à la lettre, il faut le souligner. Mais l'interprétation, on y arrive, que les hommes religieux de l'époque en avaient fait, en faisant peser sur les épaules des autres un lourd fardeau. Un jour, Jésus leur dira, vous annulez les Écritures au profit de vos traditions. Alors, ce qui devait être un jour de joie et de repos se transformait, malheureusement, en un jour d'interdiction. C'est pour ça que Jésus rappellera, et c'est Marc qui le souligne un peu plus en détail, Jésus dira à l'endroit de ces pharisiens, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a donc été prévu par Dieu pour son bien et non le contraire. L'apôtre Jean nous dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quel privilège que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs. Je pense au discours de Jésus, notamment dans le serment sur la montagne, qui va du chapitre 5 à 7 chez Matthieu, où à 5 reprises il disait, il vous a été dit, vous avez appris, mais en substance, en contrepartie, moi, je vous dis. En abordant la question de la colère, de l'adultère, du parjure, etc. Il ne l'avait pas dit seulement pour affirmer son autorité sur la loi, mais aussi pour éclairer tous ceux qui l'écoutaient, en leur enseignant la manière de comprendre la loi, la bonne façon de l'interpréter, et bien évidemment de la mettre en pratique et de la vivre. Il l'a fait au travers de sa vie. Au verset 7, ici dans notre texte, le Christ mettait le doigt sur le problème de fond en disant « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » C'était leur attachement à la lettre qui leur faisait oublier l'essentiel de la loi. Car ils étaient devenus avec le temps plus royalistes que le roi. En poussant certains enseignements, des vérités, bonnes vérités, à l'extrême. C'est cela le légalisme, mes frères et sœurs. Ils s'étaient ainsi enfermés dans un système. Il n'y a pas que, je ne les condamne pas, c'était comme ça. Aujourd'hui, on le voit dans certaines religions notamment, pas besoin d'aller bien loin. Ils s'étaient ainsi enfermés dans un système dans lequel il n'y avait ni liberté, ni tolérance, ni compassion, ni miséricorde. Seule leur compréhension de la loi devait l'emporter. Vous savez, ça sécurise tellement l'esprit religieux que Dieu nous en garde. Et comme on peut le voir dans certaines communautés chrétiennes, même parmi les évangiles, enfin, c'est le constat que je fais, notamment sur la question du divorce, des questions épineuses ou d'autres questions éthiques d'actualité, au sein de nos communautés, certains, eh bien, pour certains, ne peuvent pas prendre de risques, soit par commodité ou tout simplement par lâcheté. Mais nous devons, frères et sœurs, eh bien, toujours prendre en compte avant tout ce que disent les Écritures sur cette question, mais aussi prendre en compte la détresse morale et spirituelle de la personne concernée. Un docteur est venu de la loi, est venu un jour poser cette question au Seigneur, au Maître, pour soi-disant connaître son point de vue, mais c'était surtout pour l'éprouver, pour lui demander quel était selon lui le plus grand de tous les commandements. Vous connaissez l'histoire, la parabole du bon samaritain. Le Christ lui avait répondu que le premier et le plus grand de tous les commandements était « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Mais il lui rappelait aussi qu'un autre commandement lui était rattaché. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car de ces deux commandements, avait dit Jésus, dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà, frères et sœurs, ce qui était au cœur de la loi, l'amour pour Dieu et pour le prochain. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, l'avaient oublié ou négligé, voire écarté peut-être. Alors nous ne devons jamais perdre de vue cela, car la vérité et l'amour marchent toujours de pair, elles marchent toujours ensemble. Ils ne peuvent être séparés. Ne nous voilons pas la face, car nous ne sommes pas à l'abri, en tout cas, de ce genre d'attitude et de cette manière de penser et de faire. Nous sommes donc inexcusables devant Dieu, surtout quand dans nos milieux dits évangéliques, certains n'arrivent pas encore, enfin c'est le constat que je fais, peut-être tort, la différence entre la loi et la grâce, à trouver le juste équilibre entre elles, entre toutes les deux. Souvenons-nous aussi que la lettre tue, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il peut arriver, bien sûr, de dénaturer l'évangile, même avec la meilleure volonté du monde, c'est-à-dire en croyant bien faire, je veux dire. En tout cas, la parole de Dieu ne doit pas être utilisée comme un moyen pour dominer. C'est une réalité, malheureusement. Ne doit pas être un moyen pour dominer, ni pour exploiter ou asservir, comme c'est parfois le cas dans certains milieux. Nous devons donc veiller, frères et sœurs, à ne pas sombrer dans le légalisme ou dans le relativisme. Après tout, on est tous frères. Non, on n'est pas tous frères. Nos frères et sœurs dans la foi, ce sont ceux et celles de partout, de toute nation, de toute race, de toute culture, qui, comme nous, ont fait une expérience de la nouvelle naissance. Nous appartenons ensemble au royaume de Dieu, nous faisons partie de la belle et grande famille du Seigneur. Alors nous ne devons pas sombrer dans le légalisme ou le relativisme, ou parfois dans le n'importe quoi, excusez-moi pour l'expression. Comme le disait un pasteur il y a très longtemps, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Alors je vous cite deux exemples, trois exemples. Ça peut être, vous allez voir que c'est un peu caricatural, mais c'est pas nécessairement le premier, mais les deux autres qui vont suivre, pour nous permettre de discerner jusqu'où ça peut nous conduire à notre manière d'interpréter les textes bibliques, d'avoir accepté l'enseignement qu'on nous a donné. Alors, la question se pose, notamment, je ne sais pas si vous voulez te poser, au milieu de certaines communautés, de certains groupes chrétiens, je pose la question de savoir s'il est possible d'avoir un poste de télé à la maison. Mais ce n'est pas mauvais en soi. Certains n'en ont pas, car ils considèrent que ce n'est pas une bonne chose. D'autres l'allument à certains moments, certains jours ou pendant les vacances. Chez d'autres encore, la télé est mise dans la chambre des parents. Après, bien évidemment, il y a l'accès par biais du téléphone, Internet, etc. Ce n'est pas toujours évident pour les parents de gérer au mieux avec les enfants. Alors, on pourrait se poser la question, au regard de cela, quels sont les chrétiens les plus sages ou peut-être les plus spirituels dans l'affaire? Quel est votre avis? Mais c'est des questions pratiques, c'est aussi bête que ça, mais on doit respecter en tout cas le point de vue de chacun. Car en fait, rien n'est écrit dans la Bible concernant les postes de télé. Il n'existait pas à cette époque-là. Mais nous avons toutefois, frères et sœurs, heureusement pour nous, un certain nombre de principes qui se dégagent à la lumière des Écritures. Nous nous y trouvons également des indications très claires, notamment des mises en garde concernant l'attitude, en lien particulièrement avec ce texte, avec cet exemple, notamment des mises en garde concernant l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du monde. Et quelle est aussi notre manière de considérer le monde. L'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du monde est bien évidemment de son influence pernicieuse sur nos vies. Ne nous voilons pas la face. Et sur ceux de nos enfants. C'est donc à chacun de voir, selon sa conscience et la responsabilité qui est la sienne devant Dieu. Alors, je pense à la question du port des vêtements. Bon, elle ne se pose pas la question ici chez nous, mais dans certains milieux, en d'autres lieux, en d'autres circonstances, elle s'est posée. La question du poids des vêtements. Eh oui, nous, ça peut nous faire sourire. Hein. C'est vrai. Dans l'Ancien Testament, il était interdit, bon, mes soeurs, elles sont en pantalon ce matin, c'est très bien. Il était interdit pour une femme de porter des vêtements d'homme. Alors aujourd'hui, les femmes portent des pantalons à l'européenne, dans certaines traditions, les pays asiatiques, etc. etc. Alors, doit-on interdire, la question ne se pose pas, aux femmes de porter des pantalons. Mais certains se posent la question. Heureusement que c'est dans un cadre quand même assez restreint, mais ça existe. Qu'est-ce que dit la Bible? Dans le Nouveau Testament, ce que je vois, c'est qu'il écrit que les femmes doivent avoir une conduite chaste et vertueuse. C'est ce qui est demandé de la part de nos sœurs, à la fois particulièrement. Mais je vois que l'important, pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs, est de s'habiller de manière décente, afin de ne pas être une occasion de chute ou de scandale pour tous ceux qui nous entourent. On va dire que cela tombe sous le sens. Et nous pourrions citer encore bien des exemples. Là, c'est une véritable caricature, mais ça existe, sachez-le. Alors je pense à ce chrétien, ça c'est la cerise sur le gâteau, et là je sais de quoi je parle. Je sais de qui je parle aussi. Quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, hein, bien évidemment, mais je parle de son témoignage, je pense à ce chrétien qui était un jour parti voir son pasteur. Il n'y a rien d'anormal dans tout ça, c'est tout à fait une bonne chose. Il voulait savoir s'il était possible pour lui d'assister à un mariage de personnes de sa famille, mais qui étaient inconverties, vous vous rendez compte? Il posait la question de savoir s'il pouvait participer à ce mariage. À cela peut nous faire rire, bien évidemment. Nous pouvons remarquer ici, avec l'exemple de ce chrétien, en tout cas que le bon sens lui manquait. Tout cela à cause d'une mauvaise compréhension ou une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, en conclusion, bien-aimés, je crois que la parole de Dieu, comprise de manière saine et équilibrée, nous permettra, avec bien évidemment une lecture régulière, sérieuse et approfondie, nous permettra d'adopter l'attitude, de faire les choix et de prendre les décisions qui conviendront en toutes circonstances. Le Seigneur nous y aidera, dans la mesure où nous avons un cœur, nous cherchons véritablement à lui plaire. Alors j'aimerais terminer simplement par cette parole que Dieu va donner à Josué, parole que vous connaissez, je crois que ça peut résumer ce que nous avons abordé, en tout cas nous encourager, je l'espère. Josué chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen.